Bonsoir. Peut-être l'occasion de sentir comment ça va en ce moment. Et bien souvent, surtout peut-être en approchant d'une certaine manière de la fin de la retraite, petit à petit, pas à pas, on peut souvent avoir une compréhension un petit peu réductrice du chemin sur lequel nous nous sommes engagés, du chemin spirituel, en pensant qu'il est limité uniquement à la pratique de la méditation. Puisqu'ici, nous sommes dans ces conditions qui favorisent une pratique quand même plutôt intensive, où la méditation sous différentes formes, formelles, est favorisée, l'assise, la marche, la présence dans les temps de transition. Donc on peut croire que le chemin, c'est la méditation. Et quand on a cette croyance, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Bien souvent, eh bien, c'est que ça peut venir renforcer le fossé perçu, la perception d'un fossé entre la retraite et tout le reste de la vie quotidienne, la vie courante. J'entends parfois dire la vraie vie, comme si ici c'était pas la vraie vie, c'était une autre vie. Et donc on peut effectivement se poser la question de comment tout ce qui est vivant ici, toutes ces qualités que nous déployons, que nous cultivons, comment est-ce qu'elles peuvent venir apporter quelque chose dans ma vie au quotidien? Comment cette attitude méditative peut être transposée dans mon quotidien? Avec tous les défis que cela comporte, avec le travail, la famille, les relations, et j'en passe, la situation du monde, les nouvelles, etc. Et donc, le Bouddha nous aide en fait en clarifiant un petit peu finalement quelle est cette pratique sur ce chemin spirituel. Et il nous parle de trois grands piliers, de trois aspects de la même pratique qui se nourrissent l'un l'autre. Et donc ces trois piliers, peut-être avant de vous les donner, vous pouvez visualiser, il n'y en a pas ici, j'en ai pas vu en tout cas dans la pièce, mais un tabouret, vous voyez, avec trois, enfin j'en dessine quatre là, mais avec trois pieds. Si je retire un des pieds, bah, il n'y aura pas beaucoup de stabilité, ce serait quand même un petit peu bancal, n'est-ce pas? Et donc le Bouddha nous invite à vraiment ici à cultiver trois aspects de la pratique. Et je vais juste d'abord les nommer et puis j'irai un petit peu les déployer. Donc il nous parle de la pratique de la générosité, la pratique de l'éthique, ou de la conduite éthique, et la pratique du développement intérieur, dont Patricia a parlé ce matin. Donc je vous donne les mots pali, dana pour générosité, sila pour éthique, et bhavana pour développement intérieur, ou souvent traduit comme étant la méditation. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et donc ces trois piliers forme vraiment le fondement, si vous voulez, d'une vie harmonieuse, épanouie, sur le chemin d'une transformation spirituelle. Et donc ces trois piliers nous aident à avancer sur ce chemin vers davantage de liberté, puisqu'il s'agit bien de ça, comme enjeu que nous avons. Et sur ce chemin de liberté, qu'on nomme parfois le nirvana, n'est-ce pas? C'est un mot qui est devenu un petit peu galvaudé aujourd'hui. Le nirvana, ce qui est intéressant, c'est que ça se traduit souvent comme extinction. Et donc, qu'est-ce qui est éteint avec la pratique? On peut se poser la question. Eh bien, c'est l'extinction de ce qu'on appelle les trois feux, les trois, parfois appelés les trois poisons ou les trois facteurs conditionnants, qu'on a déjà vraiment déployés sous de multiples formes ici dans les enseignements et au cœur des entretiens, qui sont, j'ai nommé les trois usual suspects, comme on dit en anglais, les trois suspects habituels, qui sont le désir-attachement, l'attachement, l'avidité, le deuxième, donc l'aversion, le rejet, le refus. Et puis le troisième, la confusion. Et donc on peut mettre en parallèle, hein, comme un miroir, ces trois piliers et ces trois feux. Donc la générosité qui consiste à renoncer à l'avidité, à l'attachement. L'éthique qui consiste à renoncer à l'aversion, à l'hostilité, à un rapport de lutte. Et la méditation ou le développement intérieur qui consiste à renoncer à la confusion, à amener un petit peu plus de clarté. Et donc trois pratiques qui nous permettent en fait de nous libérer d'une certaine manière de l'emprise de ces trois feux, de ces trois habitudes mentales qu'on découvre certainement de manière un peu plus claire ici pendant la retraite. On peut en tout cas en voir quelques-uns à l'œuvre sous différentes formes. Et donc je vais peut-être aller explorer un peu chacun des piliers ici. Et avant cela, peut-être que en entendant ces trois mots, hein, générosité, éthique et développement intérieur, peut-être qu'on peut commencer à comprendre qu'on commence à faire rentrer, avec ces deux premiers piliers, Dana et Sila, qui sont aussi d'ailleurs deux paramis. Je pense que Patricia a nommé brièvement quelques paramis la dernière fois, donc 10 qualités que nous pouvons continuer à développer pour continuer à naviguer au cœur des mouvements de la vie avec plus d'aisance et de fluidité. Et donc ces deux piliers, les deux premiers, sont vraiment ces qualités-là qui nous permettent d'entrer un petit peu plus profondément, en tout cas de faire rentrer un peu plus profondément le bien-être des autres, le bien-être d'autrui, plutôt que de se préoccuper de notre propre bien-être au travers de la pratique de la méditation. Donc on voit que ces trois piliers ouvrent un petit peu, ou même largement d'ailleurs, l'espace de notre cœur et de notre esprit pour peut-être se libérer de cette tendance obsessive du « je », du « moi », qui veut pas, qui aime pas, qui se sent menacé, qui réagit, etc. De pouvoir ici s'ouvrir au contact du monde et des autres. Même si nous sommes déjà en contact de chacun, chacune ici, mais de peut-être ici élargir l'espace pour inclure notre quotidien. Donc des qualités que nous pouvons développer en nous-mêmes au contact des autres. Alors ce qui est intéressant, avant de plonger, je maintiens le suspense, vous voyez, avant de plonger dans chacun des piliers, ce qui est intéressant quand même de replonger un petit peu à l'époque du Bouddha, puisque ici, la manière dont les enseignements ont été transmis, c'est essentiellement le troisième pilier, le développement intérieur qui a été transmis. Tout ce qui nous permet de cultiver des qualités de cœur-esprit au travers de la pratique de la méditation, avec ses facteurs sagesse. Mais en fait, dans tous ces enseignements, il est dit, dans tous les enseignements du Bouddha, il commençait par parler de la générosité. C'était son premier enseignement avant même de parler de la souffrance, du stress, de la cessation de la souffrance, de la liberté. Il parlait de la générosité. C'était ses premiers discours, ses premières paroles à ses disciples. Et puis, il envisageait le fondement éthique. Et puis, seulement, il entrait dans les quatre nobles vérités, la souffrance, l'origine de la souffrance, la cessation de la souffrance et le chemin qui mène à la cessation de la souffrance. Donc, on voit quand même qu'il y a quelque chose de là, qui relève d'une certaine importance et d'une certaine essence. Donc, ces deux premiers piliers sont essentiels. Ils viennent soutenir notre pratique de méditation. Donc ça inverse un peu la vapeur, hein, ou ça inverse un petit peu nos priorités habituelles. Et donc la générosité, qui est vraiment ce mouvement qui va permettre d'abandonner l'attachement, hein, ce mouvement vers, d'abandonner l'avidité. La soif, hein, j'ai parlé des soifs la semaine dernière, il y en a certains d'entre vous qui n'étaient pas là, mais vraiment de toutes ces attachements à toutes sortes de choses, attachement au confort, peut-être qu'ici vous avez été aussi un petit peu sollicité en termes de confort, de voir un petit peu, tiens, mais quel est mon niveau d'attachement au confort, l'oreiller qui est un peu trop dur, un peu trop mou, un peu trop grand, un peu trop petit. Et j'en passe, ou la nourriture qui est peut-être pas habituelle, végétarienne, peut-être que ça peut venir aussi perturber intérieurement, peut-être attaché à certaines manières de manger, à des horaires, attaché à des horaires, on peut être attaché à beaucoup de choses. Et donc cette générosité, elle implique avant tout, hein, puisqu'un don donné, l'acte de donner, ça implique un abandon. D'ailleurs, la langue le démontre, un don-abandon. Donc la générosité qui implique ce lâcher prise de l'attachement, de notre intérêt personnel, en fait, finalement. Et donc, on peut voir de deux manières la générosité. Ça peut être une expression spontanée, naturelle, un élan du cœur, où ça passe pas par la réflexion, ça passe pas par la complexité de savoir si je donne ou si je donne pas. C'est juste naturel, fluide. C'est une expression, en fait, de notre pratique. Une expression de notre capacité à nous ouvrir, à ouvrir le cœur vis-à-vis de l'autre. Et aussi, donc il y a ces deux aspects, donc une expression spontanée, naturelle, et puis une pratique en soi. De la même manière que nous pratiquons la méditation, nous pouvons pratiquer la générosité au quotidien. Et je me souviens d'ailleurs que Joseph Goldstein, je crois qu'il en parle dans ses livres, mais il le dit souvent en retraite, qu'il s'était donné la mission, l'engagement d'agir toutes ses pensées de générosité, de ne pas en laisser une de côté. Moi, ça m'avait vraiment touché et marqué en me disant « Waouh, quelle détermination, quel engagement !» Parce qu'on est tous et toutes traversés par des pensées de générosité, de prendre des nouvelles de quelqu'un, de donner quelque chose à quelqu'un. Et est-ce qu'on les agit systématiquement? Sans doute que non. Parce qu'il y a d'autres choses qui viennent se mettre dans le passage. Donc quand on cultive la générosité, il y a beaucoup de qualités aidantes qui sont développées en même temps. Parce que quand on commence à se soucier du bien-être des autres, eh bien on développe inévitablement cette qualité de metta, d'ouverture du cœur. Quand on se sent concerné par la souffrance autour de nous, que ce soit de nos proches, ou même au-delà, ou pour certaines causes, eh bien, on pratique déjà inévitablement la compassion. Donc on voit que toutes ces qualités sont vraiment très interconnectées. Et d'ailleurs, le Dalai Lama, il dit que la générosité, c'est l'expression extérieure la plus naturelle d'une attitude intérieure de compassion et de bienveillance. Donc on voit déjà comment ces liens entre la pratique de la générosité et la pratique de la méditation, des qualités de cœur, naviguent ensemble, ils sont interreliés. Donc la générosité, ça vient aussi de cette compréhension qu'en fait, que seuls nous ne sommes pas grand-chose, que nous dépendons de la générosité des autres, et que les autres aussi dépendent de notre propre générosité. Et on le voit très clairement ici, je ne sais pas si vous avez eu cette perception-là, mais il y a tellement de générosité qui se déploie ici, dans cette petite communauté, à tout moment. On tient les portes, on laisse passer dans ces petits espaces clos du buffet, là où c'est vraiment très étroit des deux côtés, il faut vraiment être attentif, c'est un peu une danse autour du buffet. Il y a beaucoup de générosité dans... Voilà, moi en tout cas, à chaque fois que j'arrive, on me laisse passer royalement. Et donc c'est vraiment frappant ici que sans la générosité de chacun d'entre vous, bah, le lieu serait probablement pas si propre, qu'il y aurait quand même beaucoup de choses à redire, et que donc à la fois j'y contribue et à la fois je reçois la contribution de chacun. Donc dans cette compréhension de notre interdépendance, de notre interconnexion, la générosité devient presque une évidence quelque part, quand il y a cette compréhension-là. Une compréhension qui ne cesse de s'approfondir bien sûr. Alors on pourrait se demander, tiens, mais fondamentalement, qu'est-ce que c'est la générosité, même si on sait chacun d'entre nous ce que c'est, voilà. Souvent, dès qu'on dit générosité, on pense à donner quelque chose de matériel, de l'argent, ou un objet, ou un cadeau même, offrir un cadeau. Alors quelles sont les qualités de la générosité dont le Bouddha parle en fait? Parce qu'il y a quand même certaines qualités qui sont assez spécifiques. Alors moi, je vais quand même vous avouer, il faut faire une petite confession. Moi-même qui avais subtilement demandé à avoir un dessert tous les jours, lors du premier enseignement, je pense. Bien, figurez-vous que je ne mange pas mes desserts et que je les offre à la personne, c'est pas toujours la même, mais à la personne qui souhaite l'avoir. Alors, est-ce vraiment de la générosité? Eh bien, en fait, non. Non, Sandrine n'est pas généreuse sur ce coup-là. Parce qu'en fait, j'en veux juste pas. J'ai juste pas envie de ce dessert. Donc, c'est pas vraiment la générosité dont le Bouddha parle. Parce que l'intention n'est pas celle du lâcher-prise, de l'abandon. L'abandon de l'attachement au dessert, par exemple. Ah, j'ai vraiment envie de ce dessert, mais je vois que quelqu'un en a besoin, par exemple, et donc je vais peut-être lui offrir. Et je vais oser lâcher cet attachement au chocolat, à la mousse, au biscuit, à je ne sais quoi. Donc on voit que là, il y a quand même des qualités. Donc la générosité dont le Bouddha parle, c'est vraiment ce don authentique, ce don sincère, avec cette intention désintéressée. Donc ne rien attendre en retour. Ne pas donner le dessert, même que j'en voudrais fort, avec l'intention d'être perçue comme une personne extrêmement généreuse. Ou de paraître d'une certaine manière. Donc vraiment le désintérêt, sans rien attendre de retour. Et puis, il nous offre aussi quelques terrains sur lesquels notre générosité peut être pratiquée. Donc, bien sûr, ce qu'on donne, il y a différents types d'offrandes, de dons. Le don matériel, bon, offrir de l'argent, soutenir certaines causes, ou quelqu'un en difficulté, offrir un toit, de la nourriture, et j'en passe. Mais ça peut aussi être simplement d'offrir une écoute bienveillante, une écoute attentive. Et aujourd'hui, dans la société, sincèrement, l'écoute, c'est quand même une valeur en voie de disparition. L'écoute vraiment attentive. Et c'est Simone Veil qui dit que l'attention est la forme la plus pure et la plus rare de la générosité. Donc ce que nous cultivons ici a de la valeur. L'attention que nous pouvons offrir au monde, sous différentes formes. Parfois, c'est simplement un sourire à quelqu'un. Parfois, c'est simplement donner un peu de temps pour aider à ranger ou à monter un meuble parce que voilà, seul c'est difficile. Offrir ses compétences. Là, j'ai envie de parler de Emmanuel Bernard qui soutient un espace méditatif, qui a des compétences en termes de site web et qui les offre vraiment très généreusement pour à la fois soutenir le site, soutenir cet élan du cœur de partager les enseignements. Donc il y a déjà beaucoup de générosité en fait qui existe autour de nous. Donc l'attention peut aussi nous permettre de le repérer. Donc voilà, tout type de service, prendre des nouvelles de quelqu'un, passer un coup de fil, envoyer un petit mot encourageant, aider quelqu'un à traverser. Voilà, je ne vais pas vous donner tous les exemples de la vie, mais il y a vraiment de multiples possibilités que de pratiquer la générosité. Céder sa place dans un transport, offrir un pardon. Donc il y a vraiment mille et une manières. Mais il y a beaucoup de choses qui viennent se mettre dans le chemin de tout ceci. Et ça, je vais y revenir aussi. Ça, c'est une première forme de don. Et puis une autre forme de don qu'on appelle le don de la protection. Protéger, se protéger soi, protéger l'autre de toute forme de danger. Et donc, autrement dit, c'est de par notre comportement respectueux, harmonieux, que l'autre n'a rien à craindre de nous. Donc plus je peux vivre avec cet élan de respect, de considération pour l'autre, d'intégrité, mais plus j'offre à l'autre un espace protégé, un espace de confiance, un espace de sécurité. Donc ça, c'est le plus grand don. Et en fait, le plus grand don, c'est le deuxième pilier, l'éthique. C'est considéré comme le plus grand don. Et puis, il y a le don de sa pratique, le don des enseignements, le don du dharma, de pouvoir offrir sa présence à l'autre, offrir ses qualités d'équanimité, d'équilibre, hein, surtout quand voilà, quand tout est instable. Je me souviens très bien de la période de Covid où c'était l'instabilité multipliée par exposant 10. Beaucoup de panique, beaucoup d'anxiété, beaucoup de... Voilà, je ne sais pas ce que ça réveille en vous, mais... Et donc, est-ce que je peux, dans ces situations-là, où il y a beaucoup de tourments, de troubles, de grosses vagues, voilà, d'offrir une certaine forme d'équanimité, de stabilité intérieure, c'est très soutenant. Ça peut offrir vraiment un repère, un refuge pour les autres. Et bien sûr, offrir les enseignements, ces enseignements qui mènent à davantage de paix, de présence éveillée, de liberté, c'est aussi un très grand don. Donc c'est intéressant de pouvoir aussi élargir notre compréhension de ce que c'est la générosité, qui est parfois très limitée aussi à une manière de donner. Après, ce qui compte, en dehors du fait que c'est une intention désintéressée, bien sûr, c'est la qualité de notre intention qui est importante. Avec quelle intention est-ce que je donne? Et ça demande vraiment une très très grande honnêteté vis-à-vis de soi-même. Tendance habituelle, en tout cas moi je me reconnais là-dedans il y a très longtemps, c'était sentiment de culpabilité, j'ai une vie relativement privilégiée, j'ai un toit, j'ai tout ce qu'il me faut, il faut vraiment que je sois généreuse, il faut que je donne, mais c'était sous la contrainte et sous un sentiment de culpabilité. Ou de pouvoir donner de l'argent pour juste avoir bonne conscience. Ah ben je donne de l'argent à une cause, comme ça je peux dormir sur mon oreiller tranquillement. Ou comme j'ai dit tout à l'heure, donner du temps à quelqu'un pour être perçu comme une personne généreuse, attentive, bienveillante, ou comme une personne spirituelle. Hein, ici, voilà, de pouvoir se considérer comme quelqu'un de spirituel en étant généreux. Bref, pour pouvoir se faire aimer, se faire accepter, ou pour avoir simplement une bonne réputation. Ou alors, parfois, de donner parce qu'on nous le demande. Récemment, j'ai été à un mariage dans une église, et il y avait la quête à la fin. Et j'ai vraiment perçu l'inconfort de ce moment, un peu autour de moi. Je donne pas, mais il faut donner, c'est quand même un mariage, et puis c'est l'église, et puis il y a vraiment ce mouvement d'inconfort par rapport à ce moment-là, ne pas vraiment savoir, en fait, pas vraiment sentir ce qui est juste pour soi. Et c'est pas tant dans le fait de donner ou de ne pas donner, c'est vraiment d'aller rencontrer ce que ça vient réveiller en nous, ces moments-là. Donc l'intention qui est vraiment un facteur important, et puis il y a aussi la manière dont on donne. Le Bouddha est très spécifique sur la manière dont on donne. Il dit que la manière de donner est aussi importante, voire plus importante que ce qu'on donne. Et il dit que le don devrait être pratiqué seulement si le donateur est ravi avant, pendant et après. Donc c'est vraiment une invitation à donner avec joie, avec bonheur, avec ouverture du cœur en fait, vraiment. Dès le moment où il y a un peu cette contraction, voilà, c'est autre chose qui est en train de se passer. Et donc peut-être de remarquer dans toute la générosité qui est offerte ici, dans votre travail contemplatif, quel qu'il soit, voilà, avec quelle attitude j'offre ma contribution. Une attitude de générosité, vraiment avec joie, avec bonheur, je nettoie ma salle de bain pour la 12e fois cette semaine. Ou avec, là quand même, c'est pas si sale, ça n'a pas de sens de nettoyer cette salle de bain tous les jours. Ou avec le jugement, voilà, peu importe, ou l'ennui, la lassitude. J'en ai marre de nettoyer cette salle de bain. Voilà, de remarquer l'état d'esprit, n'est-ce pas? Ça peut être aussi intéressant. Et donc l'effet de la générosité, le Bouddha le souligne dans différents sutras. Il parle que c'est une source de joie, la joie de la générosité. La joie de pouvoir lâcher prise de ce mouvement d'avidité. Parce que dès le moment où je suis dans la générosité, dans la joie de donner, il n'y a plus de place pour ce mouvement d'agrippement, d'attachement, de vouloir plus. Il n'y a pas la peur de perdre, il n'y a pas la peur de ne pas avoir assez. Il n'y a pas tous ces mouvements-là qui crispent de l'intérieur. Et donc, ça peut être intéressant d'en faire une pratique, voilà, à la maison, au travail, en famille, d'explorer un petit peu, voilà, sans en faire un enjeu numéro un, vous pouvez bien sûr, mais de vraiment aller voir, tiens, où est-ce qu'il y a de la présence de la générosité dans ma vie, où est-ce qu'il y a l'absence de la générosité dans ma vie, ça peut être vraiment très éclairant. Et qu'est-ce qui entrave la générosité? Bien sûr, l'attachement, l'agrippement à nos préférences parfois, au confort, au bien matériel, hein, toute cette tendance que nous avons à nous approprier les choses, ben, c'est à moi, ça doit rester à moi. Moi, je me souviens qu'étant petite, je voulais rien partager, mais vraiment rien avec mon frère. C'était une catastrophe. Tout était à moi. C'était à moi. Et c'était impartageable. C'était juste pas possible. Tellement attachée à tous ces jouets, à tout ce qui était à moi. Bon, heureusement qu'il y a l'impermanence, n'est-ce pas? Voilà, ou l'inattention. Voilà, le fait de ne pas être attentif. Je monte dans le tram, je suis pleinement prise dans mes auto-préoccupations, mes obsessions du moment. J'ai le regard un peu flou et je ne vois pas qu'il y a une personne là qui a une béquille et qui juste a besoin de s'asseoir. Je ne le vois juste pas en fait. Ou alors je suis tellement pressée que je ne remarque pas que quelqu'un a simplement besoin d'une orientation dans la rue, qui est un peu perdu et peut-être besoin de trouver son chemin. Parce que je marche vite et que je passe à côté sans vraiment regarder. Et puis il y a toute l'indifférence ou ces moments de rencontre avec la mendicité. J'ai vécu très longtemps en ville où il y avait quand même vraiment presque devant chez moi ou pas très loin. Tous les jours en tout cas j'étais en contact avec la mendicité ou des personnes sans abri qui étaient dehors. Parfois des personnes qui avaient l'air un peu de l'extérieur, en tout cas c'était ma perception, un peu éméchée, un peu sous l'effet d'une substance quelconque. Et donc il y avait ce mouvement de crainte, de peur, et donc d'éloignement. Jusqu'au moment où il y a quelque chose qui se transforme avec la pratique, et il y avait vraiment l'envie de ne plus être dans l'indifférence, et surtout pas dans la peur, mais de ne plus être dans l'indifférence, et de pouvoir quand même rencontrer ces personnes de la même manière que je rencontre d'autres personnes dans la rue, d'autres, entre guillemets, personnes inconnues. Avec quand même de la considération, sans être mu par le mouvement de « est-ce que je leur donne quelque chose, une pièce ou pas ?» mais de simplement les voir comme un être humain, en fait, dans le besoin, et de pouvoir leur offrir juste un petit temps de parole, un petit temps de ou ne fût-ce qu'un regard et un sourire, hein, d'avoir une connexion, une rencontre, en fait. Donc ça peut être intéressant de remarquer, tiens, envers qui cette générosité s'exprime facilement, envers qui ou quoi cette générosité est retenue, entravée. Et tout ça à nouveau, non pas pour s'évaluer, pour se juger, je suis quand même pas très généreux, très généreuse, mais plus pour aller éclairer justement ce qui l'entrave, ce qui se met sur le chemin. Apprendre à voir nos attachements, à venir éclairer ces mouvements d'avidité, de désir, attachement. Les voir, c'est déjà la première étape pour pouvoir s'en libérer. Et donc de continuer à être curieux, curieuse de ceci, sans s'en vouloir. Bon, je n'ai pas nommé le fait que recevoir la générosité est aussi une pratique, n'est-ce pas? Quand vous recevez quelque chose de quelqu'un d'autre, parfois ça peut aussi un petit peu déstabilisé, ah mais t'es sûr, ah mais vraiment, mais il fallait pas, le ah mais il fallait pas. Voilà, c'est aussi une forme de don que de recevoir la générosité des autres. Et donc cette générosité, sur cette générosité vient s'appuyer le fondement éthique, comme je le disais, avoir un comportement respectueux avec tous les êtres, en toutes circonstances. Je vais nuancer ceci dans un instant. C'est vraiment un très grand don, c'est un acte de générosité que d'offrir ce respect en toutes circonstances vis-à-vis de qui que ce soit. Et donc, Sila, en Pali, c'est vraiment, on pourrait le résumer en disant de ne pas faire aux autres ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse. Alors ça paraît un peu bateau ce truc. Et en même temps, si on y regarde de plus près, il y a beaucoup de sagesse dans ceci. Donc l'éthique, c'est vraiment ce renoncement à nuire, à blesser, à causer du tort. C'est vraiment cette capacité de pouvoir lâcher prise de l'aversion, lâcher prise de ce mouvement contre, de ce mouvement de rejet, de refus. En bref, c'est ne pas rajouter de la souffrance à la souffrance déjà présente. Ne pas rajouter de l'hostilité ou de la violence à ce qui est parfois déjà violent en soi. Et donc ça se joue au travers de nos comportements, de nos gestes, de nos paroles, de nos attitudes, de nos regards aussi. Donc de pouvoir amener de la conscience sur à la fois nos actions et aussi l'intention de nos actions. Et j'aime vraiment bien ce passage dans les sutras où le Bouddha parle à son fils, Rahula, où il lui donne des conseils. Et il lui conseille vraiment d'examiner attentivement les conséquences des actes qu'il a l'intention de faire. De vraiment aller regarder, amener de la conscience. Et il lui dit, un peu, voilà, un père qui lui dit à son fils, c'est aussi dans une intention de protection, de prendre soin, il y a quelque chose de beau là. Il lui dit, si tu remarques que les conséquences de tes actions ne sont pas très aidantes, utiles, bénéfiques, alors n'agis pas. N'agis pas dans ce sens. Et le sutra continue en disant, si pendant l'action, tu remarques que la conséquence est plutôt dans le sens de nuire, de causer du tort, eh bien, arrête tout de suite, ne continue pas, abandonne. Et il lui dit aussi, continue à examiner attentivement, à aller regarder ce facteur investigation. Si tu as agi, que l'action est, on va dire, clôturée, et que tu as connaissance ou conscience d'avoir causé du tort de cette manière, eh bien, faisant un apprentissage. Il ne lui dit pas de se flageller ou de se condamner, il lui dit juste, regarde attentivement pour apprendre quelque chose de ceci, pour ne pas répéter éventuellement une erreur. Et donc, l'invitation, c'est vraiment d'aller regarder aussi nos intentions ici, dans nos actions, de remarquer toute impulsion dotée d'une petite saveur de violence ou d'hostilité vis-à-vis d'une autre personne, par exemple. La voiture, c'est quand même un bon lieu de pratique en voiture, l'heure de pointe, dans les emboutes, quand voilà, on a l'impression que les autres font n'importe quoi avec nous, on conduit super bien. Voilà, de voir ces impulsions de violence, même si les fenêtres sont fermées, mais c'est l'occasion d'explorer ceci, parce que nous avons aussi chacun, chacune, des graines de violence en nous, hein, qu'il s'agit de déraciner d'une certaine manière, donc de pouvoir les voir plutôt que de les laisser agir. Hein. De voir ces impulsions, je reçois un mail qui ne me plaît pas du tout, des réponses qui ne me plaisent pas du tout, ou peut-être que je me fais traiter aussi d'une certaine manière qui n'est pas respectueuse. Mais à nouveau, c'est là que Sila entre en compte. Est-ce que je vais rajouter de la violence à la violence? Ou est-ce que je vais peut-être voir cette impulsion à répondre de manière incendiaire et peut-être que je vais pratiquer pause, laisser un peu le temps de décantation et puis y revenir et voilà, et de sentir ce qui est ajusté dans l'instant tout en se faisant respecter, en posant ses limites bien sûr. Donc il ne s'agit pas de s'abandonner complètement dans ce processus et de se laisser faire par tout et par tout le monde dans toutes les circonstances. Mais donc c'est intéressant de remarquer toutes ces impulsions qui peuvent et qui peuvent parfois être agies bien sûr, de remarquer ce que nous ressentons quand on est pris dans cette impulsion. C'est ce que nous pratiquons ici, hein, toutes ces impulsions à vouloir supprimer une expérience, à vouloir rechercher une autre expérience. Donc de voir toutes ces impulsions, de les ressentir dans le corps, comment ça vit en moi. Et qu'est-ce qui se passe quand, comme tout est éphémère, ces impulsions, elles arrivent, elles passent. Donc c'est là qu'aussi la présence attentive nous aide à voir tout ceci dans la vie au quotidien, dans les relations aux autres. Et donc l'éthique est... Au cœur de l'éthique, on parle souvent des 5 préceptes et on les a chantés presque tous les soirs, en tout cas pas les 2 derniers soirs. Et donc ces préceptes peuvent être considérés comme des... Enfin, sont souvent considérés, malgré elles, comme des règles à suivre, à respecter. Mais en fait, il ne s'agit pas tellement de ça. Elles sont plus là pour nous décrire le chemin que nous empruntons. On parle vraiment d'un chemin graduel. Il peut y avoir des compréhensions soudaines. Ben oui, je comprends très bien que rajouter de la violence à la violence, c'est pas bénéfique. Je comprends ça très bien. Mais dans la réalité de notre quotidien, on a beau le comprendre, ben voilà, c'est pas intégré, n'est-ce pas? Et donc on parle d'un chemin graduel. Il y a vraiment un apprentissage pas à pas. Et ces préceptes éthiques, je vais les rappeler brièvement sans rentrer dans le détail, ils sont là comme repères, hein, comme un peu une boussole. Ils nous repèrent un peu sur le terrain, ils nous situent un petit peu où est-ce qu'on en est. Et on peut les voir comme des habitudes, en fait, des bonnes habitudes qui nous mènent vers davantage de liberté, d'aisance, de fluidité et d'harmonie dans nos vies. Parce que être dans ce fondement éthique, dans cette attitude de ne pas nuire, eh bien, c'est également source de joie. Le Bouddha parle de la joie d'être sans remords, sans regret. La joie d'être... on pourrait dire d'être irréprochable, en tout cas par instant. Et je pense que c'est Ajahn Suchito qui dit de garder le cœur propre pour ne pas agiter l'esprit. Garder le cœur propre pour ne pas agiter l'esprit. Parce que dès que, voilà, si j'ai dit quelque chose de travers à quelqu'un, ou si j'ai pas fait quelque chose que j'aurais peut-être pu faire pour aider quelqu'un, eh bien ça peut me travailler à la fois dans ma méditation, mais dans la vie, ça peut m'agiter l'esprit. Ça peut créer beaucoup de vagues intérieures et donc d'indisponibilité pour autre chose. Et donc, si vous vous souvenez, comme on les chante tous les soirs, des 5 préceptes, rapidement, peut-être en les tournant de manière plutôt positive, comme habitude, bien le bien-être qui peut naître du respect de la vie, de pouvoir honorer toutes les formes de vie, de pouvoir prendre soin de la vie, en fait, tout simplement. Prendre soin de toutes ces créatures qui nous entourent, prendre soin des uns des autres, prendre soin de la planète. Et donc, ça, évidemment, ça met en jeu aussi notre manière de vivre. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, parce que je n'aurai pas le temps, sinon je vous tiens jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Mais oui, comment je me relie à l'environnement, comment je vis au quotidien, quel est mon style de vie, mon mode de vie. Qu'est-ce que je consomme? De passer vraiment de cette consommation à la consomme-action. On est quand même quelque part des acteurs dans notre consommation. Et donc de pouvoir agir avec ce fondement éthique, respectueux, en tout cas est une voie. Et puis le deuxième précepte pourrait le tourner de la joie de la générosité, la joie de la simplicité, de la sobriété, ne pas prendre ce qui n'a pas été offert, la joie du contentement, de juste prendre ce dont on a besoin. Et puis le précepte en lien avec le comportement respectueux, de ne pas blesser avec son énergie sexuelle, c'est vraiment de pouvoir être un refuge pour les personnes qui se sentent parfois, entre guillemets, chosifiées de par leur apparence ou de par leur genre, de pouvoir adopter un comportement sexuel et de séduction respectueux, responsable. Donc ça invite à une exploration intérieure de tous nos désirs et une modération, une certaine forme de modération. Et puis le suivant, là, c'est tout un terrain, la parole juste. Ça, c'est tout un cheminement, n'est-ce pas? Les mots peuvent souvent sortir de manière incontrôlée, incontrôlable, de manière automatique, avec tous les conditionnements et les habitudes que nous avons construits tout au long de notre vie. Et donc c'est s'engager dans la parole juste, c'est s'engager dans une parole qui est bienveillante, qui est utile, qui est au bon moment, qui est honnête, une parole intérieure qui n'est pas violente aussi, la parole juste envers soi-même. Donc comme je le disais, c'est une orientation. Donc, ici, il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'apprendre à être sensible, en fait, à être sensible à notre propre parole, envers nous-mêmes, envers les autres, et à remarquer l'impact que cela a. Est-ce que ça mène davantage vers plus de souffrance ou est-ce que ça mène davantage vers plus d'harmonie, de pouvoir discerner et d'apprendre sur la base de l'expérience. Donc de voir tous ces moments où il y a des petits mensonges ou même des petites choses un peu ordinaires, anodines comme ça, mensonges par omission, les petits commérages, les rumeurs, mais tu sais pas quoi, il y a machin qui a... Et de colporter les rumeurs. Et... Voilà, les paroles aussi parfois futiles pour occuper un espace. Voilà, c'est tout un enseignement en soi. Et puis le dernier, vraiment de s'abstenir de substances, c'est dans, vraiment dans cette intention de préserver la clarté de notre esprit. Un esprit qui n'est pas clair, eh bien, il peut pas être dans cette dimension de générosité et d'éthique. Il ne verra pas clairement, donc il ne pourra pas distinguer ce qui est soutenant vers le chemin de la liberté et ce qui amène vers davantage de stress. Donc préserver la clarté de l'esprit et aussi honorer le corps, quelque part, le respect du corps. Donc on comprend bien qu'ici, il s'agit bien d'un entraînement. Un entraînement. C'est une pratique. C'est pour ça qu'on appelle ça une pratique. Pratique de la générosité, pratique de l'éthique. Une pratique qu'on peut explorer à chaque instant dans le contexte de nos vies, comme elles sont en ce moment. De nos vies familiales, professionnelles, amicales, autres, en toutes circonstances. Et on est vraiment les seuls à connaître notre motivation et notre intention quand on dit quelque chose, quand on écrit quelque chose, quand on agit d'une certaine manière. Et donc ça demande à nouveau une honnêteté radicale, d'oser voir ce qui n'est pas toujours joli en nous, ce qui n'est pas toujours sympa à regarder, qui peut parfois amener beaucoup de découragement, de tristesse, de honte. Voilà, et sachant que nous sommes des êtres humains et que nous pouvons apprendre de ceci plutôt que de nous culpabiliser. La culpabilité est aussi une forme d'aversion. La culpabilité, elle amène plus de troubles que de joie. Donc, voilà, de pouvoir aspirer à une attitude respectueuse, attentionnée vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, sachant que c'est une aspiration, c'est une direction que nous nous donnons. Et puis nous cheminons, un peu comme sur le chemin ici derrière. Il y a pas mal de cailloux, de grosses pierres sur le chemin. On peut les voir comme des obstacles, les pierres. Un peu de la même manière, nos comportements qui ne seraient pas adéquats, on peut les voir comme des obstacles, mais en fait, ces cailloux, ils servent d'appui sur le chemin. On prend appui sur ces cailloux pour avancer. Donc ici, on peut prendre appui sur ces difficultés que nous rencontrons. C'est ça qui nous mène, qui nous fait avancer sur le chemin. Donc d'apprendre à être sensible plutôt qu'à être parfait. C'est comme ça que j'ai envie d'en tout cas résumer le point sur l'éthique au cœur des mouvements de la vie. C'est Martin Luther King qui dit que la non-violence est une arme puissante et juste qui tranche sans blesser et ennoblit l'homme qui la manie. C'est une épée qui guérit. Donc, pratique de générosité, pratique de l'éthique, et puis la pratique du développement intérieur. Donc, Patricia en a parlé un peu ce matin, Bhavana, et donc qui vient vraiment de cette terminologie agricole. C'est une terre que nous pouvons enrichir de qualité. Et donc on peut vraiment comparer à l'image d'un fermier ou d'un jardinier qui déracine petit à petit les mauvaises herbes qui souillent son terrain pour pouvoir justement libérer de l'espace pour permettre aux nouvelles graines d'émerger, les nouvelles qualités que nous cultivons d'émerger. Donc il s'agit vraiment de pouvoir amener quelque chose à être, faire naître de nouvelles qualités, faire apparaître ce qui est caché, ce qui n'est pas encore révélé. Parce qu'en fait, il n'y a rien à créer, à construire, toutes ces qualités, elles sont déjà là en nous. Elles ne demandent qu'à être cultivées, arrosées et révélées. Donc il n'y a pas à fabriquer quelque chose. Et donc ici, la méditation, on en a parlé amplement, et Charles en a beaucoup parlé aussi lors d'un exposé il y a quelques soirs, hein, que c'est la méditation qui va justement lever le voile de la confusion, hein, de pouvoir renoncer à la confusion entre le vécu, le réel, et tout l'imaginaire, hein, de pouvoir faire la distinction entre les deux, entre le vécu et toutes les histoires que je me raconte sur le vécu, ou sur l'autre, ou sur le monde. De pouvoir être conscient, consciente de ceci. Voilà la mouche qui vient se poser sur mon nez. Peut avoir aussi la tendance parfois de remarquer ses réflexes, de vouloir peut-être l'écraser ou pas. Et donc ces qualités que nous développons, ben c'est toujours les mêmes dont nous parlons, bien sûr. Il y a la présence attentive qui est vraiment la clé pour pouvoir ouvrir le cœur. On peut bien sûr cultiver les qualités de cœur, metta, karuna, mudita, upekkha, donc les quatre qualités, bienveillance, compassion, pardon, joie appréciative, équanimité, les sept facteurs d'éveil, je ne vais pas les nommer ici, les paramis, dix qualités, Cécile a couvert la patience, voilà, il y a l'énergie, le renoncement, la détermination, la sagesse, et bien sûr, la générosité et l'éthique font partie des paramis. Et donc vraiment, cette pratique de méditation, elle nous permet vraiment de pouvoir voir plus clairement ce qui est à l'œuvre, d'amener cette clarté sur ce qui se passe intérieurement, de pouvoir aussi s'intéresser finalement à toute notre réactivité dans la vie, plutôt que d'en faire un problème quand je réagis. Et c'est souvent le cas quand on médite, on se dit « Ah, mais je médite et je suis encore dans la réactivité, j'ai encore fait ceci, j'ai encore fait cela ». C'est de nouveau de le voir comme des occasions d'éveil, des occasions d'avancer sur le chemin. Qu'est-ce que je peux apprendre de ces moments de réactivité plutôt que de pointer du doigt soit l'autre, c'est la faute de l'autre, soit de se pointer du doigt soi-même, se juger comme étant une mauvaise personne. Et donc de pouvoir cultiver cette persévérance dans le processus, cette patience, de manière à pouvoir voir vraiment quelles sont les conditions, les causes qui font que la réactivité a émergé, qu'est-ce que ça vient toucher en moi. Et donc plus ici, dans un contexte de retraite et à la maison, dans un contexte de méditation, seul avec soi sur son coussin, qui est un environnement un petit peu sécurisé, mais plus je peux demeurer au contact de toutes ces impulsions qui émergent, de voir tous ces moments de désir de quelque chose, d'aversion de quelque chose, d'une expérience, plus je peux voir ça pour ce que c'est, sans les agir, plus cet entraînement va m'être utile dans mes relations aux autres, dans tous ces moments qui viennent peut-être me titiller, parce qu'il y a cette capacité d'être au contact de ce qui émerge, de voir clairement et d'avoir ce choix d'agir ou de ne pas agir, de dire ou de ne pas dire, de pratiquer une pause. Je peux avoir la pensée de dire quelque chose de jugeant et puis voir cette pensée émerger et choisir à ce moment-là de ne pas la dire parce que ça ne va pas aider. Ça va juste pas aider, au contraire, ça va envenimer. Donc ce que nous cultivons ici est aussi a vraiment toute son importance. De pouvoir aussi avoir le contact avec l'émotion ici. Plus je peux rencontrer l'émotion, être au contact de l'émotion, moi je suis soumise à l'émotion. Et donc je ne tombe pas dans ces travers dont Patricia a parlé d'expulser, de l'agir, ou bien la répulsion, le refoulement. Donc on voit comment ces trois piliers travaillent ensemble, comment peut-être l'éthique se développe vraiment naturellement, ce comportement respectueux vis-à-vis de toute forme de vie, vis-à-vis de nous-mêmes, des autres. Comment il peut se développer naturellement, puisque nous cultivons ici ces qualités de sagesse, de compassion, qui grandissent petit à petit dans l'esprit. Et donc cette manière d'être en relation les uns les unes avec les autres devient vraiment naturelle en fait. Ça ne demande pas d'effort, ça ne demande pas de recourir à des règles, à des prescriptions. C'est juste naturel de ne plus être dans l'hostilité, de ne plus être dans ce mouvement de nuire, de causer du tort. Donc je vais peut-être terminer juste avec ceci, donc, en prenant peut-être un peu de recul avec ces trois piliers, générosité, éthique et méditation, je vais le dire comme ça maintenant. Mais on peut voir en fait, l'élan, c'est vraiment de se soucier de l'empreinte que nous laissons, en fait. L'empreinte que nous laissons en nous-mêmes, dans notre propre cœur, notre propre esprit. L'empreinte que nous laissons autour de nous, dans la vie des autres, puis l'empreinte que nous laissons dans le monde. Hein, finalement, c'est à ça que nous invitent ces trois piliers. Une vie où nous pouvons cultiver le lâcher-prise de ces fameux trois feux, hein, de l'avidité, de l'aversion et de la confusion. En tout cas, c'est le chemin qui est proposé. Un chemin qui n'est pas facile, qui demande beaucoup de courage, d'honnêteté et puis de persévérance. Et donc il y a Ajahn Chah, je vais terminer avec ceci. Ajahn Chah qui dit, voilà, peut-être que vous connaissez bien cette petite phrase, mais ça peut être... En tout cas, moi, chaque fois que je l'entends, ça m'invite encore à poursuivre avec intention et détermination. Si vous lâchez un peu, vous aurez un peu de paix. Si vous lâchez beaucoup, vous aurez beaucoup de paix. Si vous lâchez complètement, vous aurez une paix totale. Donc ce lâcher-prise dont il parle, il est parfois appelé Mahasukha, le grand bonheur. Donc qui est en fait le bonheur le plus fiable en fin de compte, celui qui ne dépend pas des conditions. Voilà en tout cas la promesse de la pratique, la promesse de ces trois piliers.